Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage dans cette nouvelle émission vous propose de vous donner les dernières nouvelles du cosmos. En compagnie de notre invité Jean Audouze, nous allons revenir sur les questions que se posent les scientifiques actuellement. L'univers est-il fini ? Question somme toute très philosophique. Si on imagine un Big Bang, cela signifierait qu'il existerait un temps zéro de l'univers où tout débuterait. Nous verrons que la réponse n'est pas si évidente et nous parlerons des enjeux de la mission Planck chargée de sonder le fond cosmologique diffus qui scrute l'univers 370 000 ans après le Big Bang. Nous nous intéresserons aux dernières connaissances sur la formation des étoiles, de leur naissance jusqu'à leur mort. Nous évoquerons la possible vie extraterrestre. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur cette énergie sombre, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, qui constitue pas moins de 96% de l'univers et dont nous ne connaissons pour l'instant pas grand-chose. Jean Audouze, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris et à l'Université Pierre et Marie Curie, ancien directeur du Palais de la Découverte et président de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Avec moi dans le studio, j'ai trois ouvrages que vous avez publiés dernièrement. Le premier, « L'univers a-t-il un sens ?», rédigé avec Thierry Magnin, éditions Salvator en 2010. Le deuxième, « Merveilleux cosmos », avec les préfaces d'Éric Orsenna et Jean-Claude Carrière, aux éditions du CNRS, toujours en 2010, donc beaucoup d'activités. Et puis le dernier, « Le ciel a découvert », un ouvrage sous votre direction, pour le coup, toujours aux éditions du CNRS, édité en 2010, avec notamment la contribution de plusieurs académiciens des sciences. Alors, je vais reprendre une citation de M. Jean-Paul Zahn dans « Le ciel a découvert », qui est donc l'ouvrage sous votre direction. Il écrit ceci « Les étoiles jouent un rôle crucial en fournissant de l'énergie à leur environnement, planètes et milieux interstellaires, et en synthétisant de nombreux éléments chimiques qui n'étaient pas présents à l'origine du Big Bang. Sans étoiles, il n'y aurait pas de vie et pas d'intelligence pour percer les mystères de l'univers. » C'est sur cette phrase que nous allons baser la première partie de notre émission, si vous le voulez bien, Jean Audouze. D'où vient l'énergie des étoiles ?
Alors justement, l'énergie des étoiles vient de celle qui se manifeste lorsque des différents éléments chimiques se transforment en d'autres. Exemple, pour le Soleil, c'est la transformation de l'hydrogène en hélium qui détermine sa grande luminosité pendant des très longtemps, puisqu'on sait que le Soleil brille avec cette luminosité à peu près depuis 5 milliards d'années. Il est à la moitié de sa vie, il en a encore pour 5 milliards d'années à, disons, tirer son énergie juste de ce processus. Mais ça ne se limite pas à ça, on passe de l'hélium au carbone. Du carbone, oxygène, néon, va passer au magnésium, silicium, jusqu'au pic du fer. Et alors là, le pic du fer, c'est un moment un peu particulier parce qu'il faut des réactions, je dirais, secondaires qui impliquent des neutrons pour fabriquer tous les éléments lourds au-delà du fer, disons l'or, l'argent, le molybdène, etc. Eh bien, tous ces éléments sont fabriqués par des neutrons qui, disons, s'intègrent dans les noyaux qui ont été formés précédemment pour former tous ces éléments lourds. Donc, ce qui est assez symptomatique dans une étoile, c'est que d'une part, elle brille, mais elle brille parce que c'est une usine à fabriquer des éléments chimiques. Et si nous sommes là tous les deux, on peut dire en gros que nos atomes, eh bien, ils ont été manufacturés par des étoiles de très grande masse qui ont eu le temps d'évoluer, c'est-à-dire de naître et de mourir avant la formation du Soleil. Et nous avons la chance, nous, d'être donc des morceaux d'étoiles très massives et qui tournons autour d'une étoile de petite masse qui a donc pu, disons, être stable pendant des temps très longs. Donc il y a ce paradoxe, disons, nous avons profité des étoiles de grande masse et notre vie est due au fait qu'effectivement, nous sommes sur une planète au bon endroit qui orbite gentiment autour d'une étoile de petite masse.
Mais cette synthèse des éléments chimiques est possible qu'à une température très, très, très élevée.
Bien sûr. Alors, dans le Soleil, la température qui est atteinte est de l'ordre de 15 millions de degrés. C'est à partir de 500 000 degrés, on peut faire la réaction dans les étoiles de deutérium qui brûle en donnant de l'hélium-3. Sur Terre, évidemment, il faut des températures beaucoup plus élevées parce qu'on ne bénéficie pas de ce confinement, disons cette pression due aux grandes masses. Il faut donc confiner le gaz et ce qu'on appelle le plasma. Et en général, ces réactions-là sur Terre se font à de l'ordre de 100 millions de degrés. Alors si, au contraire, dans une géante rouge, une étoile par exemple, vous avez Bethelgeuse ou Sirius, eh bien ce sont des températures beaucoup plus élevées qui sont atteintes au centre de l'étoile, de l'ordre de au moins 100 millions de degrés, qui permettent la fusion de l'hélium en carbone. Et puis si vous avez des étoiles de plus grande masse encore, de l'ordre du milliard de degrés, vous pouvez passer aux éléments tels que soufre et jusqu'à ce pic du fer. Alors pourquoi il y a un pic du fer ? C'est parce que le fer est l'élément chimique le plus stable. C'est-à-dire que c'est le plus difficile à transformer en autre chose parce que son noyau est extrêmement stable. Alors si par exemple l'univers avait une durée de vie infinie, tout l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant, se serait transformé en fer, mais on n'en est pas là. Nous vivons, malgré les 13,7 milliards d'années de l'âge de l'univers, eh bien, notre univers est assez jeune du point de vue de la nucléosynthèse.
Alors justement, voilà le terme que je voulais aborder avec vous, un terme un peu barbare, mais que vous allez pouvoir nous expliquer, la nucléosynthèse, qui découle en fait de votre explication. Il existe plusieurs générations d'étoiles, et les premières générations d'étoiles, justement, sont formées avec les seuls éléments chimiques fabriqués par la nucléosynthèse primitive, c'est-à-dire à partir de l'hydrogène.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui se passe une seconde après cet événement, alors qu'est-ce que c'est que cette seconde ? On pourra peut-être en reparler, je ne sais pas. Mais en tout cas, lorsque la température de l'univers est tombée de l'ordre du milliard de degrés, donc ça s'écoule entre 1 et 300 secondes à peu près, eh bien, il y a des réactions. L'hydrogène, alors vous voyez que dans ce verre d'eau, c'est la synthèse un peu de l'histoire de la matière à l'échelle de l'univers. L'hydrogène est primordial, l'oxygène a été fait par les étoiles. Alors l'hydrogène se transforme en deutérium, en hélium 3, en hélium 4, avec une pincée vraiment très peu de lithium 7, disons qui est une trace. Et alors ce qui est intéressant, c'est que grâce au calcul, ce qu'on appelle de nucléosynthèse primordiale, on arrive à déterminer une limite supérieure à la matière nucléaire, c'est-à-dire celle dont nous sommes faits, nous, celle qui brille dans les galaxies. Lorsqu'on voit, nous, les étoiles qui brillent, c'est de la matière nucléaire. Et donc, cette matière-là a une densité limitée. Pourquoi elle a une densité limitée ? Parce que si elle était plus grande, eh bien, il n'y aurait pas de deutérium. Le deutérium ne peut pas être synthétisé dans les étoiles. Il a été nécessairement synthétisé au tout début. Si la densité n'est pas assez élevée, il n'y a pratiquement pas de deutérium qui est fait. Si elle est trop forte, le deutérium se transforme en hélium 4. Donc, il y a un domaine assez précis et qui correspond à peu près à 3% de la densité de matière-énergie de l'univers qui est dû et qui est déduit des calculs de la nucléosynthèse primordiale. Alors la formule aujourd'hui, je reprends un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a donc 3% de matière, disons, nucléaire, il y a 27% ce qu'on appelle de matière noire, c'est-à-dire fait de particules qui n'interagissent pas avec la matière ordinaire, et puis 70% qui est de l'énergie primordiale, sans support matériel. On spécule actuellement sur son origine et je dois dire qu'on est plutôt dans le flou.
Alors, on va être amené à en reparler au cours de l'émission, ça sera l'objet de notre dernière partie. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur le deutérium. Est-ce que l'existence du deutérium validerait cette hypothèse du Big Bang ?
Oui, le Big Bang, il s'appuie à peu près sur trois piliers. Premier pilier, c'est l'expansion des galaxies, c'est-à-dire que Hubble a découvert à la fin des années 1920, en 1929, enfin, ça s'est étalé sur plusieurs années. Il a découvert que plus on regardait loin, plus la vitesse de fuite des galaxies par rapport à nous croissait de façon, disons, proportionnelle à la distance. Imaginez, on peut tourner le film à l'envers, et si on tourne le film à l'envers, on s'aperçoit que l'univers, disons, se contracte et puis va devenir, disons, quelque chose qui va avoir un volume de plus en plus petit. Ça, c'est le premier pilier, disons, le premier élément qui va en faveur de la théorie du Big Bang. Le second très important, qui est que lorsque l'univers a eu un âge, lorsqu'il a passé à une température de l'ordre de 10 000 Kelvin, eh bien ça correspond à ce qu'on appelle l'ionisation de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'au-delà, si vous portez un gaz d'hydrogène à une température supérieure, les électrons et les protons vont être libres les uns par rapport aux autres. Et à ce moment-là, ce gaz a la propriété d'absorber la lumière, c'est-à-dire que un photon va être absorbé immédiatement par un électron qui va le réémettre, etc. Donc l'univers devient ce qu'on appelle invisible parce qu'on est au-delà, disons, on a un gaz qui est un plasma parfait. Lorsque la température devient inférieure à 10 000 Kelvin, il y a ce qu'on appelle une transition de phase, c'est-à-dire que le gaz d'hydrogène
devient transparent.
Oui, parce que les électrons se mettent à tourner gentiment autour des protons et forment l'atome d'hydrogène. À ce moment-là, les électrons ne sont plus capables d'absorber les photons et l'univers devient visible. Et alors, c'est ce qu'on appelle la période de recombinaison. Et les sondes qu'on appelle COBE, WMAP et maintenant Planck, vous reproduisent, vous donnent l'image de cette période qu'on appelle la période de recombinaison. C'est-à-dire qu'avec COBE, on avait un pouvoir de résolution tout à fait médiocre, 7 degrés, donc on avait des grosses taches, mais qui ont permis néanmoins de savoir qu'il y a des directions dans lesquelles il y a un peu plus d'intensité que dans d'autres. Et la différence d'intensité entre les régions les plus intenses et les régions les moins intenses est de l'ordre du 30 millième. Ça, c'est ce qu'a apporté COBE en 1992. En 2001, les Américains ont fait voler un autre satellite qu'on appelle WMAP et c'est l'image que l'on reproduit actuellement parce que l'image de Planck, nous l'attendons, elle arrive en 2012-2013. Alors évidemment, l'Académie des sciences est très impliquée dans Planck puisque c'est mon collègue Jean-Loup Puget, qui est donc le délégué, je crois, de la section des sciences de l'univers, qui est le principal investigateur, disons le chercheur principal de cette mission. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, Planck ? C'est qu'elle est 10 fois plus sensible. Pas plus sensible, mais elle résout des images 10 fois plus nettes, si vous voulez, que l'expérience précédente, ce qui va permettre de raffiner les paramètres. Alors, déjà avec WMAP, on a été capable, en analysant la carte des irrégularités de ce rayonnement fossile, alors le rayonnement fossile étant la deuxième, vous voyez un trépied, première branche du trépied, l'expansion de l'univers. Deuxième branche du trépied, en 1965, Penzias et Wilson découvrent que l'univers baigne dans un rayonnement énorme, qu'on appelle le rayonnement fossile ou le rayonnement du corps noir, à 2,7 degrés Kelvin. Donc un rayonnement micrométrique comme celui que vous avez dans vos cuisines, hein, des fours à micro-ondes. Et puis, donc, on découvre des irrégularités, et heureusement qu'on découvre ces irrégularités. Car si ces rayonnements avaient été parfaitement homogènes, parfaitement isotropes, on aurait eu beaucoup de mal à imaginer pourquoi. Comme il y a de la matière, nécessairement, la présence de matière perturbe un peu le rayonnement, et donc induit nécessairement des irrégularités. Ces irrégularités, on les a vues en 92, on les voit mieux en 2001, et en 2012-2013, l'équipe de Planck va révéler les derniers secrets, je dirais, de l'univers. Et le troisième trépied, c'est effectivement cette nucléosynthèse primordiale qui limite la teneur en matière ordinaire, matière nucléaire comme vous et moi.
Alors, Jean Audouze, on marque une pause si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
La Villa Médicis à Rome vous ouvre ses portes. Privilège rare, Marc Bayard, historien de l'art, nous dévoile quelques secrets de ce lieu magique et de ses hôtes en nous faisant parcourir l'histoire de la villa depuis la construction en 1576 par le cardinal Ferdinand de Médicis, l'installation de l'Académie de France à Rome par Colbert en 1666 et ainsi jusqu'à nos jours. Poursuivez par une rencontre de l'ancien directeur de la Villa Médicis, Frédéric Mitterrand, sur les liens entre l'Académie des Beaux-Arts et la Villa. La Villa Médicis, deux émissions Carrefour des Arts, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Jean Audouze, avec qui nous parlons des dernières nouvelles du cosmos à partir de trois ouvrages. Merveilleux Cosmos, paru au CNRS Éditions, Le ciel à découvert, toujours au CNRS Éditions, et puis le dernier, L'univers a-t-il un sens, aux éditions Salvator, avec Thierry Magnien. Revenons, si vous voulez, quelques instants sur la mission Planck. Donc, vous en avez parlé avant la pause. Effectivement, on a reçu Jean-Loup Puget qui nous a parlé de la mission Planck et des résultats à venir et de ce que l'on souhaitait obtenir. Donc, Planck est parti le 14 mai 2009 et publie au rythme d'une carte complète tous les 6 mois environ, donc la cartographie du ciel. Alors, il va prochainement nous donner à voir l'univers tel qu'il était 370 000 ans après le Big Bang. C'est ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire cette interface où l'univers est à la fois transparent et puis ensuite on entre dans cette épaisseur.
Tout à fait.
Voilà. Alors, on se rapproche petit à petit de l'enfance de l'univers, on se rapproche du Big Bang. Ma question est donc la suivante, et c'est celle que je posais au début de cette émission. L'univers est-il fini ?
Eh bien alors, donc, effectivement, on a l'impression C'est-à-dire qu'on a deux sondes, hein, pour aller au-delà de cette recombinaison. On a la première sonde donnée par la physique nucléaire qui vous décrit l'univers entre, disons, 1 et 300 secondes. Et puis, grâce à la physique des particules, on arrive à connaître un certain nombre de choses. Par exemple, si vous voulez, les noyaux sont faits d'atomes, sont faits de particules qu'on appelle les quarks. Et on arrive à savoir à peu près le moment où les quarks cessent de former une sorte de mer. On dit qu'ils deviennent confinés. On passe d'un état de déconfinement à un état de confinement des quarks. Mais effectivement, on se rapproche de plus en plus. Il y a donc un autre horizon, qui est un horizon, je dirais, quantique, qu'on appelle l'horizon de Planck, en deçà duquel on ne peut rien dire, parce qu'effectivement, on applique le principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est-à-dire, vous savez que lorsqu'on connaît très précisément l'énergie d'un système, eh bien, on ne connaît pas très précisément le temps qu'il a fallu pour que l'énergie se transmette d'un état à un autre. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Eh bien, il y a un temps dit de Planck, un mur, qu'on appelle mur de Planck, qui est de 10, 43 zéros, c'est-à-dire 1, 10 puissance moins 43 secondes, incommensurable pour nous. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a ce mur-là. Alors, est-ce que ce mur-là pourra être ou non traversé? Ça, c'est une spéculation. Alors, effectivement, il y a des collègues qui essayent, vous avez sûrement entendu parler d'une théorie qu'on appelle la théorie des cordes cosmiques, c'est-à-dire on remplace les particules qui étaient supposées être des petits points matériels par des systèmes à peine 10, 11, 13, 21 dimensions qui forment des espèces de petits élastiques très modestes. Et donc, cette théorie des cordes peut se généraliser en une théorie qu'on appelle des branes. Au lieu d'avoir des petits élastiques qui se ferment les uns sur les autres, vous avez des espèces de grandes surfaces très énergétiques qui sont dans des dimensions qui n'ont rien à voir avec celles que nous manipulons ordinairement. Et alors certains imaginent que peut-être c'est le choc de deux de ces deux branes. Et puis l'une d'entre elles, ce choc, aurait déclenché le Big Bang. Donc effectivement, il y a des essais d'imaginer des scénarios qui permettent de franchir le mur de Planck. Ceci étant, ces scénarios ne pourront pas être prouvés expérimentalement. Ça veut dire que ce sont des spéculations. On était dans le domaine de la physique lorsqu'on parle du deutérium, lorsqu'on parle du rayonnement à 3°4, lorsqu'on parle au contraire du choc de Debrane, malheureusement c'est de la métaphysique parce qu'on n'a aucun moyen de prouver ce qu'on avance. Alors nous sommes donc dans une bulle, nous, de 13,7 milliards d'années-lumière d'extension. La question que vous posez, qui est très légitime, c'est de savoir est-ce que cette bulle est unique ou est-ce qu'il y a d'autres bulles? Eh bien là aussi, malheureusement, on n'a pas de réponse tranchée à cette question. Ça rentre aussi dans la spéculation. Il y en a qui aiment imaginer que la théorie de ce qu'on appelle les multivers, un nombre indéterminé d'univers, les uns en contraction, les autres en expansion, un peu comme un espèce de gâteau, vous voyez, dans lequel il y a des bulles, il y en a qui se contractent, d'autres qui se dilatent. Et donc, effectivement, notre univers, l'univers observable, il est fini. Enfin, sa dimension croît continuellement et devrait croître normalement de façon indéfinie. Mais est-ce que cette bulle est unique ou est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une question légitime, mais je ne peux pas répondre de façon tranchée à cette question.
Donc on sait que l'expansion est à l'infini, plus infinie, mais on ne sait pas si elle est moins infinie.
Voilà, tout à fait.
Abordons, si vous voulez bien, la question de la matière sombre. J'imagine qu'on ne sait pas encore, mais peut-être avons-nous déjà des hypothèses. De quoi pourrait être constituée la matière sombre?
Alors, la matière sombre, vous voyez, il y a deux choses. Hein. Il y a l'énergie sombre qui est une énergie primordiale qui explique le fait que les supernovae vont plus vite, enfin, les galaxies très lointaines vont encore plus vite que simplement une loi rectiligne et uniforme. Bon, ça, c'est donc une énergie sans support matériel. Je vais m'intéresser un petit moment sur la matière sombre. Alors, on sait des choses sur la matière sombre. Vous avez deux possibilités. Soit c'est beaucoup de particules de petite masse. On appelle ça de la matière sombre chaude, parce que si elles ont des petites masses, elles peuvent avoir des vitesses d'agitation très élevées. Ou c'est peu de particules de grande masse. On appelle ça la matière sombre froide. Et aujourd'hui, tous les modèles, disons, de dynamique des galaxies, vous savez, on simule un peu comme les gens qui faisaient la théorie cinétique des gaz, si vous voulez. On imagine que chaque galaxie, c'est un point à laquelle on affecte une masse, on met des particules noires dans le modèle, et puis on regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, tous les modèles de simulation de dynamique des galaxies sont en faveur d'une énergie noire froide. Et alors actuellement, on imagine que ces particules candidates pourraient avoir une masse qui soit à peu près de l'ordre de 1000 fois la masse du proton. Alors, il y a une expérience actuelle qui est donc au CERN, qui s'appelle le LHC, le très grand collisionneur à hadrons, Large Hadron Collider, qui a été conçu pour essayer d'observer, de déterminer l'existence de ces particules. Alors bon, là aussi, c'est comme dans le cas de Planck, c'est-à-dire les machines marchent, mais elles n'ont pas encore donné, disons, les résultats probants ne sont pas encore révélés. Mais on peut espérer, en tout cas, c'est ce que les physiciens qui travaillent à Genève au CERN espèrent, trouver les traces de cette matière sombre.
François Hammer, qui a réalisé une conférence au Bureau des Longitudes, a lancé une boutade qui est la suivante. Et si la matière sombre n'existait tout simplement pas ? Cela aurait le mérite de résoudre pas mal de questions, mais ça nécessiterait de reprendre à zéro la théorie de la relativité générale.
Tout à fait.
C'est une citation de François Hammer. Qu'est-ce que vous
Il
en pensez ?
Il a tout à fait raison. Alors, c'est vrai que c'est pas plaisant du tout. On est un peu dans la même situation qu'à la fin du 19e siècle, avant l'avènement de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'on observe, disons, des phénomènes qu'on n'explique pas par le visible, alors on crée de la matière sombre, on crée de l'énergie sombre. C'est pas plaisant. C'est un peu comme, pour expliquer la vitesse de la lumière, on imaginait un éther avant Einstein, si vous voulez. Et puis, évidemment, Einstein a trouvé la théorie de la relativité générale, disons, qui fait abstraction de cet éther. Alors, on pourrait très bien imaginer, et c'est le travail de certains, on pourrait compliquer la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y a des termes dans les équations d'Einstein qui ne se révèlent qu'à d'immenses densités ou à d'immenses températures et qui, autrement, ne sont pas perceptibles. Alors, il y a des gens pour essayer de construire des scénarios fondés sur, justement, des complications de la théorie de la relativité générale. Alors honnêtement, on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les adversaires s'observent, mais personne n'a encore l'argument convaincant dans un sens ou dans l'autre.
Alors avançons, si vous le voulez bien, au cours de cette émission, le temps passe. On va aborder un point qui revient régulièrement dans les médias, parce qu'on s'y intéresse tous, c'est à savoir si la vie extraterrestre est possible. Vous y consacrez d'ailleurs, dans l'ouvrage Le ciel a découvert, deux chapitres sur la possibilité ou non d'une vie extraterrestre, et puis également dans Merveilleux Cosmos, Jean-Claude Carrière, qui a donc participé aussi à l'écriture de l'ouvrage, avec vous et avec Eric Orsena, parle d'une vie probable, intelligente et organisée possible. Alors, je vous pose la question, au regard des études que nous avons, est-ce que l'on peut envisager une vie extraterrestre, mais peut-être pas forcément au sens où on l'imagine et au sens du cinéma qui peut en faire une extrapolation? Est-ce que la vie extraterrestre
existe ? On s'intéresse à ce sujet depuis les années 60. Déjà, il y a un premier progrès qui a été accompli dans cette direction, c'est la découverte des exoplanètes, où ça date de 1995. C'est donc un associé de l'Académie des sciences, Michel Mayor, qui est donc membre associé de l'Académie, qui a découvert les premières exoplanètes autour d'une étoile de la constellation de Pégase. Alors, en 15 ans, maintenant, on a non seulement découvert des planètes isolées, il y a plusieurs systèmes planétaires qui viennent d'être découverts. C'est-à-dire, on a découvert 6 planètes tournant autour d'étoiles. Donc, le phénomène des systèmes planétaires autour des étoiles semble être aussi fréquent que le fait que 80% des étoiles qu'on observe dans le ciel ressemblent au Soleil. Donc, je dirais que la planète, c'est un élément aussi habituel que les étoiles dans le ciel. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie de la recherche va consister à essayer de voir si dans le système solaire, il y a sur d'autres astres, par exemple, en 2014, on va observer ou ne pas observer la présence d'éléments biologiques sur le noyau d'une comète grâce à une sonde qui a été envoyée en 2004 par l'Agence spatiale européenne qu'on appelle Rosetta, qui va donc arriver gentiment sur le noyau d'une comète en 2014 et qui va permettre d'analyser la composition très précisément de ce noyau cométaire. Dans les années 2020-2030, il est prévu d'envoyer une sonde, par exemple, sur un des satellites de Jupiter qu'on appelle Europe, qui est constitué, il y a une croûte de glace, mais si on la perce doit être pas très importante, mettons 1000 mètres ou quelques kilomètres, on la percera, on ira pomper, il y a un océan, et on ira pomper l'océan et voir si dans cet océan, il y a des bactéries ou pas. Ou même, évidemment, les expériences de retour d'échantillons de Mars. Donc ça, ça va être une deuxième famille de recherches qui va nous occuper, je dirais, pendant les années qui viennent. Alors ensuite, sur les exoplanètes, tout n'a pas été dit. Comme je vous l'ai dit, on a découvert un ou deux systèmes planétaires complexes. Il y a un certain nombre de sondes qui s'appellent Gaïa, qui s'appellent Darwin, qui vont être capables d'analyser de façon bien plus précise la présence de planètes autour des étoiles. Alors, première chose, on va d'abord voir si des planètes sont à la bonne distance par rapport à leur étoile. Et alors ensuite, si ce cas-là existe, on va chercher dans ces planètes-là des signes de vie. Alors, il y en a deux pour nous qui sont manifestes, c'est la présence de l'eau. Ce qui est bien, c'est que l'eau, la spectroscopie de l'eau est facile à détecter. Puis, il y a un autre élément et qui lui serait intéressant à chercher, c'est s'il y a de l'ozone dans l'atmosphère de ces planètes. Comme vous le savez, l'ozone, c'est la molécule triatomique de l'oxygène. L'oxygène que nous respirons, il est diatomique, mais il y a des molécules triatomiques qui constituent une sorte de bouclier dont la teneur augmente dans la stratosphère et qui, disons, qui empêche le rayonnement ultraviolet émis par le soleil de pénétrer au sol et donc de perturber, si vous voulez, les molécules biologiques qui pourraient se former. Alors, s'il y a de l'ozone, s'il y a de l'oxygène, là, on aurait des candidats pour que la vie se fixe et éventuellement se développe sur ces planètes. Alors, en revanche, découvrir des gens, ce qu'on appelle les intelligences, là, je pense qu'on est très, très loin. Parce que là, il faut, selon moi, il est vraisemblable, vu le nombre d'étoiles, il y a des centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil, ce serait vraiment tout à fait surprenant qu'on soit seul. En revanche, nos collègues, à mon avis, sur des distances telles par rapport à la vitesse de la lumière. Il faut savoir que si on envoie un signal, par exemple, prenons les étoiles les plus proches, elles sont à 5 années-lumière de nous, ça veut dire qu'on envoie un signal, on sait qu'elles ne sont pas habitables, celles-là. Mais ça prend 10 ans. La possibilité de communication est vraiment limitée à un tout petit volume très proche du Soleil et donc la probabilité qu'il y ait des gens dans ce volume est quasi nulle.
Hormis la présence de l'eau, on imagine bien qu'effectivement c'est une condition importante pour envisager le développement de micro-organismes ou même de bactéries. Est-ce que l'on peut envisager une vie qui pourrait se développer à partir d'ammoniac, par exemple ?
Alors, il est possible que les êtres intelligents ne soient pas comme nous, qu'ils aient des tentacules au lieu de bras ou que sais-je encore. Mais à mon avis, ils proviennent de la chimie du carbone. Pourquoi ? Parce que le carbone a deux propriétés. Un, il est abondant dans la nature, il y en a beaucoup, je veux dire par rapport aux autres éléments. Et deux, il est quadrivalent. C'est-à-dire qu'il y a une profusion, il est capable de se synthétiser dans plein de molécules. Alors, l'ammoniac joue un rôle parce que dans les molécules, disons d'ADN et d'ARN, il y a de l'azote, mais il y a surtout du carbone. Et donc, selon moi, les intelligences n'ont peut-être pas suivi le même chemin que nous. On pourrait très bien imaginer. Pourquoi les pieuvres, par exemple, sont moins intelligentes que nous ? C'est parce que, un, elles pondent des œufs, et donc il n'y a pas l'instinct, je veux dire, de parents-enfants. Donc, la communication avec leurs congénères est de mauvaise qualité. Mais sinon, je veux dire, du point de vue, elles ont des yeux aussi élaborés que nous. Donc, on pourrait très bien imaginer que sur d'autres planètes, des animaux du genre pieuvre ou avec des tentacules, mais qui ont la possibilité, disons que l'instinct enfant-parent existe, etc., on pourrait très bien imaginer qu'il y ait d'autres filières que la nôtre, qui est passée par les rats, par les lémuriens, par les singes, puis est arrivée à nous. On peut imaginer d'autres branches qui pourraient avoir donné des gens intelligents.
Alors voilà, nous nous sommes envolés du côté de la science-fiction, peut-être que c'est assez éloigné de nous. Terminons sur une question relative au vol habité. Donc, dans l'ouvrage Merveilleux Cosmos, mais surtout dans Le Ciel à découvert, vous parlez des vols habités, de l'utilité ou pas des vols habités, et notamment vous parlez à un moment donné de la Station Spatiale Internationale. Alors terminons là-dessus, quel serait l'avenir de ces vols habités ? Est-ce que nous avons intérêt à les développer ou est-ce qu'au contraire, nous avons plutôt intérêt à développer des satellites, des sondes qui vont faire des recherches pour nous ?
Alors si on se place d'un point de vue strictement économique, il est certain qu'on recueille davantage, on fait davantage de science avec des sondes automatiques qu'avec des vols habités. Ceci étant, on sait aussi que la Chine et l'Inde vont aller sur la Lune. Disons, ce sera dans 5, dans 10 ans. Peut-être l'Europe y retournera, peut-être que les États-Unis y retourneront.
C'est donc plus pour les symboles.
Oui, pour les symboles, parce que c'est dans la nature humaine de se dépasser. Disons, il y a un côté défi, effectivement, et qui a expliqué les vols Apollo. C'est prévu qu'ils recommencent en 2020, 2030, etc. Alors, on peut éventuellement, et bien sûr, le président George Bush en a parlé, et d'autres, hein, imaginer qu'on va se mettre en position pour aller visiter Mars. Aller sur Mars, c'est 9 mois. Ça, ce n'est pas la difficulté. La difficulté majeure, c'est que dans le milieu interplanétaire, il y a beaucoup de rayonnement. Et donc, il faut que la sonde ait une masse suffisante pour protéger les cosmonautes de rayonnement. D'autre part, il faut emporter des vivres pour
oui.
9 plus 9. On va bien rester 2 mois, mettons, pour 20 mois. Donc, si vous voulez imaginer une mission qui emmène des gens, il faut aussi qu'on soit sûr que ces personnes soient capables de subsister pendant 20 mois dans un milieu très confiné. Ensuite, sur Mars, les conditions ne sont pas particulièrement favorables. Il y règne des températures assez faibles, des pressions qui ne sont pas très élevées non plus. Bon, donc, ce n'est pas totalement idéal. Et donc, moi, ma suspicion, c'est que, effectivement, si l'humanité a du temps devant elle, elle y arrivera. Mais il n'y arrivera pas, selon moi, pendant le 21e siècle.
Merci Jean Audouze. Je redonne les 3 titres des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission. Merveilleux Cosmos, donc avec la participation de Jean-Claude Carrière et d'Éric Orsena, publié aux éditions du CNRS en 2010. Également, sous votre direction cette fois-ci, Le ciel à découvert, pareil, publié aux éditions du CNRS en 2010. Et puis le 3e, L'univers a-t-il un sens, avec Thierry Magnien, et publié aux éditions Salvator, également en 2010. Et puis, terminons par une note, on va dire, studieuse. Je crois que vous travaillez, ou même vous allez publier très prochainement, un cahier d'astronomie.
Voilà, c'est donc un cahier qui est destiné aux jeunes et qu'on espère produire d'ici le mois de juin. Une sorte de cahier amusant, avec des petites questions, qui préparera les jeunes à profiter des nuits des étoiles. Donc c'est pour tout public. Ça se présentera comme une sorte de cahier de vacances.
Cahier de vacances publié en juin 2011, pareil, CNRS édition. Merci à vous Jean Audouze.
Merci beaucoup.
À bientôt pour de prochaines nouvelles du Cosmos.